étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 54e édition de Roman de Gare, j'ai eu le plaisir d'accueillir l'autrice anglaise de naissance et française d'adoption, Diane Jeffrey, dont le deuxième roman traduit en France, Écart de conduite, est paru le 15 mai 2025 aux éditions Istia et compagnie. Diane, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu préfères le mot autrice, auteure, romancière ou écrivaine dans ce qu'on te présente en France ?
Auteur ou autrice, mais au choix.
D'accord. Alors, comment on te présente en Angleterre, alors ?
Writer, author, oui.
J'ai lu noveliste aussi.
Oh, noveliste aussi, oui.
Donc c'est pas, noveliste est auteur de nouvelles, mais non, pas forcément d'histoire. C'est, noveliste, ça veut dire quoi traduction
Un romancier, je suppose. D'accord. Non, un novel, c'est un roman.
Ah, ok, d'accord. Ah, ouais. D'accord, c'est pas
donc,
une nouvelle.
Pas
d'accord.
De nouvelles, hein, non. Nouvelle, okay. C'est un faux ami.
Voilà, un de plus. Ouais. Il y a un faux ami anglais, il n'y en a pas qu'un. Alors, bien.
On est perfide.
Chez les Albions. Alors, quelle place avaient les livres et l'écriture avant de quitter ton Devon natal et de poursuivre tes études à Nottingham ?
J'ai grandi avec des livres, en fait. Hein. J'étais une lectrice précoce. Je lisais quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai toujours lu des livres. Et à la bibliothèque locale, ma mère prenait toutes sortes de livres au départ. Et puis, très vite, que des polars. Donc, j'ai beaucoup lu des polars qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge. Et de là, j'ai voulu écrire aussi. J'ai écrit des nouvelles, pour le coup. Des nouvelles pendant mon enfance, mon adolescence. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps pour être publiée. Par contre, j'ai publié mon premier roman. J'avais 43 ans. C'était ma deuxième tentative.
Bien.
Voilà.
On va en reparler. Alors, généralement, j'ai des auteurs français, donc je disais qu'elle était à la place du français, mais là, je vais revenir dans tes jeunes années. Alors, qu'elle était à la place de l'anglais, ta langue maternelle et paternelle à l'école, plus grande que les mathématiques, les sciences ou l'histoire-géographie?
Ah, j'étais nulle en maths. J'ai fait de mon mieux, donc je m'en suis à peu près sortie, avec des cours particuliers aussi, pour m'aider un peu. Mais oui, non, j'étais beaucoup plus littéraire, donc dans les langues, anglais à la base, et puis... allemand aussi, j'ai étudié l'allemand à la fac et au lycée forcément. Et du latin, ça j'en garde pas forcément très bon souvenir.
Alors, tu écris des nouvelles depuis ton plus jeune âge, tu racontais quel genre d'histoire ?
Toujours une histoire avec un retournement de situation à la fin. Donc c'est ce que j'ai finalement mis dans les polars, il y a toujours un retournement de situation à la fin. Enfin, ouais. Pas forcément à la fin, mais dans les deux livres en question, c'est à la fin.
Alors, tu as d'autres passions que la lecture et l'écriture. Le sport et la natation en particulier avaient ta préférence. Tu as quel rapport avec l'eau ?
J'ai grandi dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique. J'étais sauveteuse en mer, nageuse aussi, en piscine. Donc oui, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures dans l'eau.
L'eau est un élément indissociable de tes romans.
Pas alors, disons que sur les 8 livres que j'ai publiés en Angleterre, en anglais, la plupart d'entre eux, la scène se déroule dans le Devon, donc où j'ai grandi. Donc effectivement, dans le décor, l'océan en fait partie, mais aussi les bois et les landes. Les landes, on a des landes dans le Devon qui sont très sauvages, pas comme les landes dans le sud-ouest de la France, mais des landes...
Des vraies landes déjà.
Voilà, très vallonnées, très vertes, très sauvages. Donc c'est un décor... tout à fait apte pour un polar, je pense. Bah, plein d'endroits déjà pour enterrer un cadavre entre les landes et les... où on peut le jeter à la mer, etc. Mais oui, donc l'océan, pour revenir à la question plus sérieusement, l'océan doit figurer dans la plupart de mes livres, en effet.
Donc, outre les compétitions de natation en piscine, tu étais la première femme sauveteuse à travailler sur les plages du Royaume-Uni. Alors, Pamela Anderson, David Charvet, David Hasselhoff et Baywatch. Alerte à Malibu en français. Oui, ils sont pour quelque chose? Non.
Non, rien, je crois que j'ai... Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça, cette émission est née, mais... Moi, j'ai commencé sur les plages, je ne sais plus quelle date. Je pense un peu avant quand même cette série, mais effectivement, les comparaisons, ça se faisait déjà à l'époque.
Ah ouais,
un petit peu,
c'est vrai.
Oui. Ben, surtout dans mon cas, parce qu'effectivement, j'étais la seule femme pendant un an ou deux dans une équipe masculine.
Donc pendant tes vacances
pendant les vacances d'été, en effet, oui.
Alors en 1995, après une double licence en français et en allemand à l'université de Nottingham, c'est ça?
Oui.
Tu as décidé de venir en France, tu aurais pu choisir d'aller en Allemagne?
Tout à fait, alors j'ai essayé, la France n'était pas à l'époque mon premier choix,
ah,
désolée.
D'accord.
Mais l'Allemagne, c'était un peu plus compliqué d'y aller, c'était assez tôt, la mobilité entre les pays européens, ça bloquait un petit peu. Et... ça bloquait aussi. En France, je voulais aller à la fac à Metz hein, parce que j'avais déjà passé une année dans ce coin-là, donc je connaissais un peu. Mais pour faire mes inscriptions à la fac, il fallait le faire par Minitel. Et évidemment, en Angleterre, j'en avais pas. Donc du coup, j'ai atterri à Strasbourg où j'ai pu faire mon inscription sur papier libre. Et puis c'est passé. Donc du coup, je suis revenue en France, mais cette fois-ci à Strasbourg après avoir fini ma licence en Angleterre.
Donc tu es arrivée à Lyon.
Après, j'étais mutée en fait.
Ah, tu as passé le CAPES de France.
Passé le CAPES d'abord. Oui, tout à fait.
D'accord.
À Strasbourg.
D'accord.
Et j'ai demandé à rester à Strasbourg. On m'a mutée à Vonvelin. Donc c'est là où j'ai atterri à Lyon. Et puis, j'ai passé l'agrégation dans l'idée de repartir à Strasbourg. Et finalement, je suis restée à Lyon. Ça me plaît bien.
Voilà. Alors, tu avais quel rapport avec la France avant de venir à Lyon, toi?
On a beaucoup passé de vacances en France, surtout en Bretagne. J'ai fait un road trip avec un copain. Après avoir fini ma licence, on a pris sa voiture et on a suivi la côte ouest tout le long jusqu'en bas, jusqu'à Biarritz. Donc, je connaissais un petit peu la France avant de venir, on va dire, oui. Pas Lyon, par contre, je ne connaissais pas du tout Lyon avant d'être envoyée au collège à Lyon. Ouais.
Alors depuis, donc, tu n'es jamais repartie dans le Devon?
En vacances, oui, mais enfin, vivre, non.
Non. Puisque tu es désormais professeur d'anglais au lycée public Rosa Parks à Neuville-sur-Saône, dans le Rhône.
C'est ça, voilà. Depuis 2011 maintenant, je suis dans ce lycée. Ouais.
D'accord. Tu fais étudier à tes élèves la littérature anglaise et les polars et thrillers en particulier?
La littérature et la culture anglo-saxonne, oui. Et en fait, effectivement, avec mes élèves dans ma classe de spécialité, donc littérature et culture, etc., on fait un chapitre sur les méchantes. Donc les méchantes dans la littérature, dans les séries télé, dans les films, voilà. Donc ça me permet effectivement d'explorer quelques polars.
Y compris le tien? Y compris les tiens?
Non, quand même.
Tu ne te permettrais pas?
Non.
Alors, quand est arrivée l'envie d'écrire, non plus des nouvelles, mais des romans?
Oui. Mon premier roman, j'ai écrit « Mon fils était bébé ». C'était un bébé très calme et ça m'a permis d'écrire mon premier roman pendant qu'il était tout petit. C'était censé être une comédie romantique. Je ne pense pas que c'était très drôle, en fait. Et de toute façon, j'ai pas réussi à le faire publier. J'avais quelques bons retours de la part d'agents littéraires en Angleterre auxquels je l'avais envoyé. Mais j'avais vraiment pas le temps de poursuivre ou de réécrire ou de retenter. Et puis, c'était plusieurs années après. J'ai bénéficié d'un congé de formation. Et j'ai étudié un peu d'espagnol d'un côté. Je me suis dit, j'avais quand même pas mal de temps libre. Et la piscine, manque de bol, était fermée cette année-là. Donc, je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me suis lancée dans les polars. Donc, j'ai écrit mon premier polar cette année-là. Et c'était publié en janvier 2017.
D'accord. Donc, l'idée d'écrire des thrillers psychologiques, c'était une évidence pour toi?
Oui, je lisais quand même beaucoup plus de polars que de livres romantiques à ce stade. Et puis, je pensais comprendre le fonctionnement un peu mieux. Oui.
Alors, quelles sont les autrices et auteurs qui t'ont donné envie d'écrire des thrillers psychologiques?
Alors, Agatha Christie, forcément. Elle est née dans le même comté que moi. Du côté des États-Unis, Stephen King. Stephen King, j'aime bien. Alors, pas ses livres d'horreur, mais tout ce qui est un peu thriller psychologique, etc. Dennis Lehane, Shutter Island, etc. Mary Higgins Clark. J'ai beaucoup lu en fait de polars, d'auteurs divers, y compris pendant ma jeunesse, pendant mon adolescence. Ouais.
Essentiellement anglophone.
Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Je lis un petit peu en français maintenant. Maintenant que mes livres sont traduits, j'essaie de lire un peu plus souvent, mais effectivement, je lis beaucoup en anglais, c'est vrai.
Ouais. Alors, comment définirais-tu le style des romans que tu écris? Thriller psychologique, thriller
oui,
domestique?
Oui, on appelle, voilà, les deux. On les deux. Appelle thriller psychologique ou thriller domestique. Domestique, je pense, parce que la menace est souvent très proche de son foyer, de son chez-soi. Ça peut être un membre de la famille ou carrément une menace qui est dans la tête. C'est quelque chose, je pense, dans ce que j'écris, moi, c'est quelque chose de réaliste que j'essaie de dépeindre. Parfois, un phénomène de société, une question sociétale. Et j'aime bien aussi faire en sorte que mes lecteurs se posent la question, qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place? Donc, c'est un peu ça mon style d'écriture psychologique. Donc, thriller psychologique parce qu'on est beaucoup dans la psychologie des personnages. Il faut comprendre pourquoi un personnage réagit de telle ou telle manière, comment un personnage est amené à subir quelque chose, à peut-être vouloir de la vengeance alors qu'au départ, c'était quelqu'un qui était calme, normal, comme toi ou moi. Donc, on est vraiment beaucoup dans la psychologie des personnages.
Comment construis-tu tes personnages? Dans ton thriller psychologique, ils sont tous sauf neutres, je trouve, tes personnages.
Oui, c'est vrai. Alors, je pars du principe qu'un personnage...
On a l'impression qu'ils sont neutres, mais ils ne le sont pas.
Non, je pars du principe qu'un personnage qui est bon, quelqu'un de bien, a forcément quelques défauts, et vice-versa. Même un méchant, il a quand même quelques qualités quelque part, en général, à moins d'être un tueur en série. Donc, je construis mes personnages avant de commencer le livre et j'ai souvent deux ou trois pages de A4 où j'ai mis absolument tout, leur nom, ce qu'ils aiment, la musique qu'ils écoutent. Après, je n'utilise pas tout forcément dans le livre, mais ça me donne une idée, ça me permet de connaître mes personnages avant de commencer à écrire. Et puis aussi d'avoir, parce que dans Écart de conduite, par exemple, la narration est partagée, c'est un roman en chorale, la narration est partagée entre deux personnages féminins et je ne voulais pas qu'elles aient la même voix narrative. Donc en fait, il y a des expressions que l'une utilise plutôt que l'autre. Il y en a une qui aime la musique, donc elle fait des comparaisons parfois avec la musique ou le rythme, etc. L'autre, elle est plus branchée argent, etc. Donc ça revient dans leur façon de penser. Donc je commence comme ça avec mes personnages. J'ai parfois une photo d'un comédien, d'un acteur ou d'une actrice que je colle sur mon bureau pour avoir à quoi ce personnage est censé ressembler physiquement, mais le reste, ça sort de ma tête. Et puis, j'ai une bonne idée de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas avant de commencer. Ou elle, dans ce cas-là.
Alors, il est souvent question de couple dans tes romans. Pour écrire un thriller psychologique, pour toi, il faut être deux, de manière officielle ou non?
Ah, bonne question. J'y avais pas réfléchi. Je savais que tu allais me piéger avec au moins une question.
Ça, j'espère que ce n'est pas la dernière.
Est-ce que j'ai des célibataires parfois? Je crois que quand j'ai des personnages célibataires, il y a quand même un élément, effectivement, avec peut-être un peu de tension sexuelle à un moment donné. Celui qui va sortir à la fin de l'année, il n'est pas en couple. sa femme a disparu, en fait, dans des circonstances qui ressemblent un petit peu à un de ses romans. C'est un écrivain. Mmh. Voilà, donc ça commence comme ça. Donc, effectivement, lui, il est tout seul.
Ouais, même s'il y a une notion de couple, parce qu'elle a disparu.
Bon, c'est vrai, oui. Ah, oui, voilà. Bah, oui, alors.
Ouais, ouais. La notion de famille est très importante dans tes romans.
Oui.
Enfin, après, c'est que comme il y en a que deux qui sont sortis en France sur 8, donc oui. Je me base un petit peu puis sur ce que j'ai lu un petit peu au niveau des résumés. Elle l'est aussi pour toi dans ta vie. Ta famille t'inspire aussi lorsque tu écris tes histoires.
Oui. Tout à fait, oui, oui. Ben, j'ai trois enfants. Je dis enfants, c'est des adultes. Hein. Ils ont 18, 19 et 23 ans. C'est mon monde, hein, mes enfants. Et effectivement, dès que j'ai des ados, ils m'inspirent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils auraient dit dans telle ou telle situation. Ça, c'est vrai. Et effectivement, il y a la notion de famille qui est très importante dans mes livres. Dans The Guilty Mother, au-dessus de tout soupçon, c'est une famille qui dysfonctionne, hein, une famille recomposée qui dysfonctionne complètement. Et dans Écart de conduite, dans Écart de conduite, Amy, en fait, quand son mari ne rentre pas et qu'elle ne sait pas où il est passé, on découvre assez rapidement qu'elle est enceinte, qu'elle rêvait de fonder une famille. Donc, effectivement, et elle, pour le coup, sa famille, sa mère vit en Australie. Donc, le soutien qu'elle a vient de la part de ses beaux-parents plutôt que de la part de ses parents. Mais ça fait partie de la notion de famille. Oui, effectivement, ce n'est pas forcément des familles classiques avec maman, papa, les enfants et tout va bien. C'est parfois des familles un peu atypiques ou dysfonctionnelles.
Et pourquoi alors
un polar, Michel. Hein, si tout va bien dès le début, il n'y a pas d'intrigue.
Il n'y a rien d'autobiographique, il n'y a rien qui vient de plus loin.
Oh, certainement. Voilà. Oui. Je ne peux pas vous dire quelle partie, parce que.
Il faut garder le secret quand même.
Exactement.
Au moins celui-là. Les histoires que tu racontes sont aussi forcément influencées aussi par les faits divers de la vie de tous les jours.
Oui, parfois, pas toujours. Le Guilty Mother, c'était effectivement inspiré par, ou tout au moins l'idée, un fait divers a déclenché l'idée qui est devenue The Guilty Mother, au-dessus de tout soupçon. Il y avait plusieurs femmes en Angleterre pendant les années 90 qui ont été incarcérées pour avoir tué leurs enfants. Alors qu'elle disait que c'était une mort subite de nourrisson et ça s'était passé avec plus d'un enfant dans les trois cas. En fait, elles ont été incarcérées en grande partie sur le témoignage d'un soi-disant expert qui a dit que c'était le genre de tragédie qui ne pouvait pas atteindre la même famille plus d'une fois. C'était comme la foudre qui tombe, qui n'est pas censée tomber deux fois au même endroit. Alors qu'en fait, avec le recul, on sait que c'est pas vrai. Ça, malheureusement, si ça t'arrive une fois, un deuxième bébé, il a beaucoup de similitudes au niveau de tout ce qui est génétique. Mmh. Et parfois, il est couché dans la même chambre. Donc, s'il y avait des choses nocives dans l'air ou le matelas, etc., on recrée les mêmes circonstances et le risque est un petit peu plus élevé. Que dans une famille qui n'a jamais subi cela. Donc, ce fait divers m'avait marqué. Et mon livre n'a rien à voir avec ça en réalité, mais c'est ça qui avait déclenché l'idée.
Donc, toi, tu as une vie déjà très, très bien remplie avec ta famille, ton chien, ton chat aussi ?
J'ai une chienne et un chat. Oui.
Ton travail, tes loisirs et le sport en particulier, sans oublier le chocolat et la bière. quand écris-tu et dans quelles conditions ?
J'écris le dès que j'ai fini mes cours, en fait. Donc, le mercredi, je peux écrire l'après-midi et le week-end. Si je finis un peu plus tard, je rentre et j'essaie d'écrire un petit peu. Pendant les vacances.
Il faut être dans les conditions, parce que quand on rentre, il faut être concentré. Enfin, quand on écrit, on est concentré, on est dans un autre monde.
Tout à fait. J'arrive à faire relativement peu d'heures tous les jours, parce que, ben, effectivement, je jongle tout ça avec un travail à temps plein. Le fait d'être enseignante prend beaucoup de temps,
même.
Ben oui, déjà. Donc, mais voilà, j'arrive à trouver un peu de temps le mercredi après-midi, le week-end et pendant les vacances. Donc, c'est là où ça avance un peu. Mais en réalité, je pense que quand on écrit, on a toujours le chapitre qui tourne dans la tête. Et donc, ne serait-ce que quand je me promène avec ma chienne, j'y pense. Et puis comme ça, quand je suis devant l'ordinateur, je sais à peu près ce que j'ai à faire.
Tu écris uniquement en France ?
Uniquement en France ?
Oui, quand tu écris.
Partout, dans l'avion, en Angleterre, en Irlande, j'ai écrit partout, pendant toutes les vacances, forcément. Donc, partout. Mais mon endroit préféré pour écrire, c'est effectivement mon bureau chez moi, que mon mari a complètement refait, qui sont les livres, voilà.
Bon, tu écris partout, mais pas en français.
Non, jamais en français. Alors, on m'a demandé de le faire pour un recueil de nouvelles qui sera vendu pour une œuvre caritative. Donc, je vais m'y mettre. Mais effectivement, non, j'ai jamais écrit en français, sauf pour mes études. Voilà.
Ouais. Alors, donc, tu as besoin de te rendre en Angleterre pour préparer tes romans, j'imagine ?
J'y vais de temps en temps. Alors, en général, j'y vais pour lancer une nouvelle sortie. Et puis, ça me permet de revoir mes copines, mes copains et ma famille. Hein, parce que mes parents sont retournés vivre en Irlande du Nord quand j'ai grandi en Angleterre. Et puis, comme ma mère est nord-irlandaise, mes parents sont retournés là-bas. Mais j'ai encore mes oncles et mes tantes dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc, voilà.
Ouais. Ton imaginaire et les images que tu as de ton pays ne te suffisent pas pour écrire ou tu as besoin de retrouver les décors ou pas ?
Oui, un peu les deux. C'est toujours bien d'y aller et essayer de rafraîchir la mémoire un petit peu là-dessus. Je pense que c'est difficile de poser un décor dans un endroit qu'on ne connaît vraiment pas parce que ce n'est pas juste visuel. On peut effectivement regarder des photos sur Google ou regarder Google Maps pour avoir une idée. Mais il y a les odeurs, il y a les sensations, il y a comment sont les gens sur place. Donc, c'est pour ça que mes livres, c'est essentiellement dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est le coin que je connais le mieux de tout mon pays. Donc voilà. Et puis oui, effectivement, j'y retourne de temps en temps. J'ai donc le livre dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va sortir en français à la fin de l'année. J'y suis allée en vacances avec mes parents, avec mes enfants et mon mari pendant l'été, justement pour faire des recherches. Je savais où je voulais, ce que je voulais comme scène dans mes livres et il a fallu que je fasse un petit peu de révision. Voilà. Mmh.
Quand tu écris un roman, cela se ressent sur ta vie ? Tu vis tes romans ? Tu vis tes personnages ?
Alors, quand je me promène avec ma chienne, je parle avec mes personnages. Ma chienne ne dit rien, donc ça va. Et puis, quand je suis en train d'écrire, quand je suis vraiment dedans, ça prend beaucoup de place dans ma tête, à tel point où mes enfants me parlent des fois et je ne capte rien à ce qu'ils me disent. Et la nuit, ça tourne. Le fait d'être dans le noir, en fait, mon esprit se met à bosser juste au moment où je veux m'endormir. Donc, j'ai toujours des feuilles et un stylo à côté du lit.
Ah oui.
Je gribouille sans allumer, en fait, et je relis mes notes le lendemain. Voilà.
Alors, tu as mis beaucoup de temps à convaincre un éditeur de publier ce fameux premier roman,
en anglais ?
Oui.
Non, en fait, disons que c'était ma deuxième tentative de faire publier un roman. Et je l'ai écrit, j'ai mis un an pour l'écrire et j'ai mis un an et demi pour le réécrire, ce que j'ai fait 3 ou 4 fois. Avant de trouver une maison d'édition.
Ah oui.
Et puis après, encore de réécriture avec mon éditrice avant que ce soit publié. Donc effectivement, c'était pas top au premier jet. Mais j'ai trouvé beaucoup de temps, oui et non, un peu plus d'un an du coup, avec ma deuxième tentative. La première tentative, j'ai envoyé à quelques éditeurs sans succès. Je n'ai pas vraiment insisté. À l'époque, je n'avais pas vraiment le temps. Mmh.
Mmh. Et le fait de ne pas être en Angleterre, ça a été un frein ou pas ?
Non, du tout. Plus maintenant. Peut-être à l'époque, avec mon premier roman, il fallait tout envoyer par courrier. Il fallait aussi que j'aie les timbres pour le retour. Donc, ma mère m'achetait des timbres et les envoyait. Je faisais mes envois depuis la France. Donc, voilà, maintenant, tout est fait par e-mail. Donc, donc, peu importe, on peut faire aussi des entretiens pour tout, par Zoom, que ce soit avec mon éditrice ou avec des stations de radio, etc. Donc, c'est plus du tout un problème. Bah, d'ailleurs, mes livres, en fait, se vendent aux États-Unis aussi, évidemment, mais moi, j'y vais pas. J'aimerais bien, n'empêche, mais non, c'est pas strictement nécessaire, un jour peut-être.
L'entourage est important, celui de ta famille, celui de la famille et des amis. Sans eux, tu y aurais cru de la même façon ?
Est-ce que j'aurais cru en moi ?
Oui.
Non, c'est vrai qu'on a besoin d'un soutien. Je pense que ce qui m'aide le plus, c'est peut-être... j'ai une communauté, j'ai beaucoup de potes qui sont écrivains aussi. Donc, on a une communauté sur Facebook où on se retrouve pour des conseils ou juste pour se plaindre. Et puis, j'ai deux copines qui lisent mes livres quand, après le premier jet, et je fais la même chose pour elles. Et on se donne des conseils avant de donner le livre à nos éditeurs respectifs.
Donc, ça veut dire que ton mari et tes enfants ne donnent pas forcément... leur avis, ou ils le lisent aussi ? Ils ont le droit de le lire avant ?
Ah, ils peuvent lire s'ils le veulent. J'ai ma fille cadette qui a lu deux de mes livres, mais après la sortie, elle les a lus en anglais.
Voilà. Ouais. Mais avant, la sortie, non ?
Il pourrait, mais en fait, c'est en anglais. C'est ça, peut-être, le problème aussi. Mais ma famille ne lit pas forcément facilement en anglais. Mes filles, si, elles peuvent. Mais voilà.
Elles n'ont pas eu envie, pas spécialement.
Pardon ?
Elles n'ont pas forcément l'envie de lire tes livres avant qu'ils sortent ou avant pour donner un avis, je veux dire, tout simplement.
Non, je pense que c'est... Je cherche un peu plus, un avis un peu plus critique aussi, peut-être. Donc, je demande à mes copines qui écrivent, elles savent à peu près ce qu'il faut donner comme critique.
Alors, ce premier roman et les autres qui suivirent ont eu beaucoup de succès outre-Manche et même plus loin, tu le disais, aux États-Unis, au Canada et en Australie.
Oui.
Avec notamment le format liseuse.
C'est ça.
Tu as obtenu quelques prix et les critiques sont élogieuses, je peux le dire.
C'est gentil.
Alors, comment vit-on ce succès ? Alors, loin de ces pays et du tien en particulier ?
Pour le coup, j'ai eu un prix en France aussi.
Donc... Oui, mais ça, c'est tout récent. Mais oui. Avant l'arrivée de Diane Jeffrey en France, et en français surtout.
Comment je vis ça alors que je ne suis pas là-bas ?
Voilà.
J'y vais de temps en temps. Ouais. C'est la bonne excuse pour y aller d'ailleurs.
En Angleterre, tu parles.
Oui, tout à fait. Je pense que tout auteur écrit, ou presque tous les auteurs écrivent dans leur langue maternelle. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment concevable pour moi de mettre à écrire en français. Mm-hmm. Et ça me donne une bonne excuse de retourner, que ce soit pour le lancement des livres ou pour faire des fêtes avec ma maison d'édition et les autres auteurs, ou pour faire des salons de livres, etc. Donc, c'est la bonne excuse pour pouvoir repartir un petit peu toute seule d'ailleurs.
Au Canada,
non, les États-Unis, le Canada, non, pas trop. Oui, non, pour le moment. En fait, j'ai été invitée aux États-Unis quand même, mais je n'ai pas pu y aller. Non, pas vraiment à cause du coup, mais parce que c'était au milieu du baccalauréat et j'avais été convoquée pour les coffees. Mais donc, quand j'ai été... quand les finalistes ont été annoncés pour un livre qui n'est pas sorti en français, qui s'appelle The Couple at Causeway Cottage. Donc, ça faisait partie des finalistes pour un prix qui allait être annoncé à New York. Et effectivement, j'étais invitée. Alors, en fait, je pensais que je n'allais pas gagner le prix parce que c'était le seul livre écrit par une autrice britannique, et pour le coup, les livres des auteurs américains qui étaient également finalistes, je les avais lus et je les trouvais très bien. Donc voilà, je n'avais peut-être pas vraiment mesuré la chose, donc je me suis dit non, je ne peux pas y aller, de toute façon, je suis convoquée pour le baccalauréat, et puis j'ai gagné. C'est un copain à moi qui a dû aller chercher mon prix. ce qui était 4 heures du matin pour nous, quoi. Et je ne pouvais pas dormir. Je voulais savoir qui est-ce qui avait gagné. Je me suis levée et j'avais un mot avec une photo de sa part pour me dire qu'il a dû faire mon speech pour moi.
Le succès de tes romans au format liseuse est le même pour toi que si ça avait été au format papier ?
Disons que ça augmente le nombre de ventes, je pense, le fait que ce soit sur une liseuse. Contrairement à ce qui se passe en France, nous, on n'a pas un prix unique pour le livre en Angleterre. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour les livres électroniques en France, bien que mes deux livres soient disponibles en livre électronique. Mais en Angleterre, ça se vend parfois très peu cher dans les promos. Mmh. Donc, effectivement, ça augmente le nombre de ventes. Mais, et puis, j'ai... un pourcentage bien plus élevé en termes de droits d'auteur pour le livre électronique plutôt que le livre papier. Mais c'est vrai que si on veut un peu de visibilité, il faut être sur les rayons dans les librairies. Ouais. Ouais. Oh, j'ai la chance d'avoir mes livres en anglais sortent dans les trois formats, donc en papier, en livre électronique et en audio. Ouais.
Alors, tu aurais pu continuer à ne faire paraître tes romans qu'en anglais. Qu'est-ce qui a fait que le 23 mai 2024, The Guilty Mother est devenu au-dessus de tout soupçon et est arrivé en France ?
C'est moi qui ai cherché, en fait, et puis j'aimais beaucoup. Je suis allée rencontrer... une petite maison d'édition, c'était Slatkin et compagnie à l'époque, gérée par... un père et un fils, c'était une petite entreprise familiale. Et j'ai envoyé mon livre pour voir ce qu'ils en pensaient. Alors, ce n'est pas celui-là que j'ai envoyé, en fait, à la base. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, OK, mais nous, on voudrait lire The Guilty Mother. Donc, je leur ai envoyé celui-là et c'était celui-là qu'ils voulaient publier. Ils m'ont invité à... aller rencontrer à Paris, m'ont envoyé mon billet de train, donc j'y suis allée. Et puis en fait, j'aimais beaucoup leur vision des choses. Je suis tombée amoureuse de toute façon, et du père et du fils, ils étaient top. Et puis j'aimais leur vision de ce que c'était que de publier, de se concentrer sur chaque livre qu'ils publiaient, donc de ne pas voir en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et donc, ils ont publié The Guilty Mother sous le nom au-dessus de tout soupçon, et c'est comme ça que ça s'est passé.
Voilà. La traduction en français du titre de Guilty Mother n'est pas littéralement la mère coupable, mais au-dessus de tout soupçon.
Oui.
En anglais, above suspicion, c'est ça ?
Beyond, beyond suspicion.
Ah bon ?
Oui.
Ah, c'est même
pas ça. Ah si, on peut dire above suspicion. Non, tu as raison. Ouais. Tant pour moi.
C'est Google Trad, j'avoue. Alors, comme pour les titres des livres, il y a une différence entre l'anglais et le français. Les mots n'ont pas forcément le même sens. Chaque langue a ses accroches.
En termes de titre,
oui.
Hein, oui. En fait, The Guilty Mother, ça se traduit pas très bien. The Guilty Mother, c'est en fait le titre est parfait en anglais. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. j'ai validé, mais c'était pas mon idée à la base.
C'était quoi toi le titre à la base ?
Un truc comme au-dessus de tout soupçon, je crois. Hein, beyond all blame, quelque chose comme
D'accord.
ça.
Okay.
Et en fait, la mère coupable, ça n'allait pas. Donc, on est parti sur d'autres titres. Et donc, ça a été publié dans un premier temps sous le titre « Au-dessus de tout soupçon » chez Hystia & Company, Slatkin à l'époque. Et puis, quand ça a paru chez Point,
en poche
eux, ils se sont beaucoup posé la question. Puis finalement, ils ont décidé de publier le livre avec le titre d'origine. Oui, donc, The Guilty Mother, sans traduction. Oui. Alors, ça prête un peu à confusion parce que quand je fais des salons littéraires, j'oublie de dire que c'est quand même bien en français. Et j'ai des lecteurs, des lectrices qui pensent que je vends un livre en français, un livre en anglais. Ben, c'est pas tout à fait ça. Je pense que ça gêne personne, ça a plutôt bien marché. C'est vrai que le titre en anglais, il va tout à fait avec le livre, parce que c'est la question qu'on se pose tout au long du livre. Est-ce qu'elle est coupable ou pas ? Donc, voilà.
Alors, The Guilty Mother est ton troisième roman paru en Angleterre.
Tout à fait, oui.
Pourquoi avoir choisi ce livre et qui l'a choisi ? Toi ou les éditions Slatkin, aujourd'hui, Hystia & Company, ouais.
Oui. Donc, parce que ce n'était pas le livre que je leur avais envoyé. J'avais
écrit un
livre, en fait, qui... la scène se déroulait à moitié en Irlande du Nord et à moitié à Lyon. Et donc, je pensais que pour un public français, ça pourrait être mieux. Mais c'est vrai que les événements, en fait, étaient c'était centré sur un attentat terroriste. Et là, c'était un peu de temps après les attentats terroristes en France, dans le Bataclan. Donc, c'était peut-être pas très bien choisi comme moment ou comme thème. Donc, et puis, bon, c'est vrai aussi que The Guilty Mother, ça se vendait beaucoup mieux à l'époque. C'est mon de loin le livre qui s'est le mieux vendu pour moi. Donc, on est parti là-dessus.
Ouais. Alors, la traduction de The Guilty Mother en français a été réalisée par Jean Esch, connu pour son travail avec Michael Connelly, Patricia Cornwell ou Stephen King.
Oui.
Alors, tu as collaboré avec, comment avec lui
Pas trop, en fait. Ouais. J'avais dit à mes éditeurs qu'il fallait qu'il lui donne mon adresse mail. S'il avait des questions, qu'il pouvait me contacter. D'accord. Mais je n'ai pas eu de ses nouvelles du tout.
C'est eux qui ont choisi.
Oui, eux connaissaient Jean Esch, ouais. Ouais. Mais il a fait un super boulot. Hein. Moi, je trouve que c'est magnifique comme traduction. Alors, je suis dans une position un peu unique, je pense, assez atypique en tout cas, dans la mesure où je peux relire le livre en français et apporter des suggestions si je trouve que ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire à la base ou que, voilà, si je relève une répétition qui peut être la mienne d'ailleurs, je peux faire des petites corrections, quoi, des petites modifs. Donc, de ce point de vue-là, je suis dans une position assez atypique. Je ne traduis pas mes livres, mais je les relis et je les retravaille derrière. Donc, mes deux livres ont été traduits par des traducteurs différents. Donc, Jean Esch, dans le cas de Au-dessus de tout soupçon, The Guilty Mother. Et Michel et Clovis Bessières, dans le cas d'Écart de conduite. Et c'est un très beau boulot aussi pour Écart de conduite. Mais c'est totalement différent comme style, je trouve. Alors que bon, en fait, je pense que n'importe qui prendrait un de mes livres en anglais et verrait tout de suite que c'est la même autrice et le même style. Et finalement, c'est deux boulots très, très bien faits, mais très différents, avec deux styles plutôt différents pour les deux livres. Donc, c'est intéressant pour moi, ça.
Alors, toi qui maîtrises bien le français, tu trouves que le traducteur trouve toujours les bons mots pour être au plus près de ce que l'autrice ou l'auteur ont voulu dire.
Ah, c'est tout un art, ça, c'est compliqué. Moi, je le fais dans l'autre sens. Je traduis parfois depuis le français vers l'anglais.
Ouais.
C'est un art parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Hein. On a un choix et il faut qu'on choisisse quelque chose. Donc, pareil, pour te donner un exemple, dans Écart de conduite, le traducteur a essayé d'imiter mon style, hein, qui est plutôt oral, facile à lire, pas spécialement relevé en termes de registre. Hein. Et Jean Esch, en fait, je crois qu'il a haussé le registre de ce que j'avais écrit à la base. Donc voilà, on n'a pas de bonne réponse pour telle ou telle phrase. Après, on peut faire des erreurs, donc c'est ça qu'il faudrait éviter, ou des contresens. Mais globalement, oui, enfin, c'est des choix qu'on fait quand on traduit. Voilà. On ne peut pas proposer deux, trois choix dans la version finale et au lecteur de choisir, quoi.
Alors, la traduction des romans étrangers n'est pas toujours réussie. Moi, je trouve, même pour les plus grands auteurs, il ne suffit pas de traduire mot à mot. C'est presque un travail d'auteur que celui de traducteur.
Ah, complètement. Mais je suis d'accord, oui, parce qu'on m'avait demandé à la base si je pouvais traduire mes livres. Et je pourrais, je pense, à peu près, mais ce ne serait pas très joli, à mon avis, déjà, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et puis, effectivement, moi, je crois que je mettrais autant de temps de traduire un de mes livres que de l'écrire à la base, quoi.
Alors, après, Au-dessus de tout soupçon, redevenu The Guilty Mother, en poche aux éditions Point, The Other Couple, on dit comme ça. L'autre couple, paru en 2023 au Royaume-Uni, est devenu Écart de conduite et est paru le 15 mai 2025 aux éditions Istia et compagnie. Alors, pourquoi avoir choisi ce deuxième roman dont les premiers écrits datent de 2019, quand même, d'après les indications du livre ? Pourquoi avoir choisi ce deuxième roman, alors ?
Je pense que c'est ce que j'ai écrit de mieux, en fait. C'est parmi mes romans, celui que je préfère.
D'accord.
J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce que c'est la narration, c'est deux points de vue narratifs féminins, deux personnages féminins très différents. dans une qui est quand même profondément méchante et égoïste. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ces chapitres à elle. J'ai beaucoup aimé l'écriture de ce livre. C'était un peu compliqué au milieu. J'ai bloqué à un moment donné, mais comme pour beaucoup de mes livres. Mais bon, finalement, quand je l'avais fini... en général, quand j'envoie un livre à mon éditeur, à mon éditrice, je ne sais pas trop si je l'ai réussi ou pas. Celui-là, j'étais contente en fait, de ce que j'avais fait. C'est, je pense, celui que j'ai, mon meilleur livre à jusqu'à maintenant, moi.
Peux-tu, sans trop en dire, nous raconter l'intrigue des quarts de conduite?
Oui, je raconterai le début, parce que dans le premier chapitre, on a bien posé l'enjeu. Donc, les quarts de conduite, c'est l'histoire d'un couple d'amants qui part dans le sud-ouest de l'Angleterre pour un week-end clandestin en amoureux. Et au moment où ils repartent, ils renversent par accident un jeune homme qui est sorti promener son chien. Et il le tue sur le champ, le jeune homme, hein, pas le chien. Je précise, jamais j'oserais tuer un chien dans mes livres. Voilà. Donc, la femme de ce jeune homme attend son mari à la maison. Et quand il ne rentre pas, elle appelle la police. Et la police est persuadée qu'il est parti de son plein gré. Et elle n'est pas bien d'accord. Donc, elle essaie de remonter la piste pour savoir ce qui s'est passé. Elle est persuadée que quelqu'un est responsable pour un enlèvement ou la mort de son mari, elle ne sait pas trop, mais elle veut remonter la piste. Donc, c'est une sorte de jeu de chat et de souris entre les deux personnages féminins. Et puis, il y a l'élément de culpabilité là-dedans aussi. Et l'élément, comme je disais tout à l'heure, où on se demande ce qu'on aurait fait à leur place, à la place de chaque femme.
Alors, les quarts de conduite débutent dans une ville du comté de Devon, au bord de l'océan Atlantique.
Oui.
Il est question de surf.
Oui, toujours.
Toujours. L'eau est très présente à l'image de la vague en fin de section de ta fille Amélie, hein, comme un cul de lampe, comme tu le dis si bien.
C'est ça, oui. C'est un cul de lampe qu'elle a dessiné pour moi avec une vague de l'océan. Et puis, en fait, c'est un symbole qui est important dans le livre. Si on le lit, on saura pourquoi. Oui, ça a toute son importance dans le livre. Et par ailleurs, je me suis fait tatouer avec cette image.
Ah oui ?
Oui, c'est tout petit, hein, sur mon épaule.
Alors, en quoi Amy, l'un des personnages du roman, te ressemble, à part qu'elle est du Devon, qu'elle est enseignante, qu'elle a un chien et qu'elle aime l'eau ?
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, hein.
À part ça, peut-être pas beaucoup, hein, finalement, parce qu'elle est plus jeune que moi déjà. Non, je pense que ça s'arrête là.
Ça s'arrête là.
C'est un petit peu la musique. Il y a un côté un peu musical chez Amy, voilà. Mais c'est que puis elle est prof aussi.
Oui.
Oui.
Mais enfin bon.
Enfin bon, c'est un détail.
Elle est enseignante.
Oui.
Ah, t'es enseignante aussi.
Yes.
Voilà. Bien. Alors avec écart de conduite, il est question d'histoire de couple, légitime ou pas, hein, qu'ils soient les personnages principaux ou pas d'ailleurs, avec des enfants ou pas. Mm-hmm. Alors pourquoi la notion de couple t'inspire à ce point ?
Bonne question. C'était ces deux personnages féminins qui s'opposent l'une à l'autre. Et effectivement, les deux sont en couple. Comme tu disais, un couple qui n'est pas légitime d'un côté, avec une femme qui est mariée, mais qui a un amant et qui n'a pas... Elle a un enfant, mais elle n'a pas tellement la fibre maternelle. Et à contrario, une femme qui rêve de fonder une famille, d'avoir une famille avec son mari, et dont le mari disparaît, quoi. Donc effectivement, c'est un jeu de contraste aussi entre les deux femmes et entre les deux couples.
Ouais. Alors il y a ces deux couples que tout oppose.
Oui.
Amy et Greg d'un côté, Kirsten et Nick de l'autre,
oui.
Deux classes sociales bien différentes.
Ah, complètement, hein, oui.
Une classe à peine moyenne,
oui.
Voire pas ouvrière, mais avec peu de moyens.
Oui, c'est ça. Hein. Simple, ils vivent simplement, voilà. Pas très matérialistes.
Voilà, une élite fortunée de l'autre, hein, qui se croit tout permis parce que c'est l'élite, avec ses signes extérieurs de richesse que sont ses voitures et ses maisons.
Complètement, hein. Et oui, il a une piscine même, oui, en effet. Voilà. Oui.
On te sent plus proche d'Amy que de Kirsten, tu n'as pas choisi le camp des plus forts.
Je crois qu'il y a quand même pas mal d'éléments autobiographiques, même dans Kirsten. Mais bon, pas dans la façon dont elle essaie d'élever sa fille, hein, ça c'est sûr.
Quand je dis que tu as choisi ton camp...
Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne et une méchante fondamentalement, mais bon, après, Amy, finalement, à un moment donné, elle veut se venger, hein, donc elle commence à avoir des pensées qui sont un petit peu moins bonne.
Voilà.
Et à contrario, Kirsten, elle a quand même des moments où elle est rongée par le chagrin, la culpabilité, même si elle arrive plus ou moins à l'éteindre comme un robinet. Ouais. Quoi.
Alors, on parle de signe extérieur de richesse. Hein. J'ai regardé, le prix d'une Audi A8 est supérieur à 100 000 euros. Hein. Donc, plus de 86 800 livres sterling. Hein. J'ai regardé.
Oui.
Donc, avec ce véhicule, on sent tout le pouvoir d'une classe, celle des riches sur l'autre, celle des pauvres ou des précaires.
Oui.
Ouais.
Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, l'amant de Kirsten, comme tu disais, se croit tout permis, mais surtout, comme il est avocat lui-même et qu'il défend les pires êtres humains, il pense qu'il est au-dessus de toutes les lois. Essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à la justice avec un homme pareil, c'est quasiment impossible.
Il y a une arrogance chez Nick et Kirsten qu'on ne retrouve pas chez Greg et Amy.
Tout à fait.
Avoir de l'argent ne rend pas forcément intelligent. Là.
Oui, alors je pense qu'ils sont intelligents, mais c'est deux êtres humains qui sont quand même très auto-centrés.
Alors Nick et Kirsten sont amants et veulent le rester à tout prix. S'ils ne sont pas des meurtriers, ils ne deviennent pas par la force. Ils le deviennent par la force des choses, par omission. L'amour et la passion mènent à tout, y compris au crime.
Oui, alors en fait, quand il renverse Greg dans le premier chapitre, donc on n'a pas vraiment donné de spoiler, et il se rend compte immédiatement évidemment qu'il est mort et décide d'embarquer le corps dans le coffre de leur véhicule et de prendre la fuite. Et je pense qu'il y avait un côté là-dedans, enfin, j'ai voulu montrer un côté où il se disait qu'ils avaient trop à perdre. Et donc, ils ont choisi, ben, pour le jeune homme en question, il n'y avait rien à faire. Donc, ils ont embarqué le corps. Et d'un autre côté, ils pensaient effectivement que tout leur était permis, que s'ils faisaient ça, personne n'allait pouvoir les toucher. Ils se sentaient un peu intouchables, je pense, en faisant ce geste aussi. Ouais. Comme lui, il est avocat et qui pense qu'il est au-dessus de toutes les lois de toute manière, et qu'en plus de ça, il a défendu suffisamment de criminels pour savoir comment est-ce qu'il faut se débarrasser d'un corps, etc. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne leur vient pas... très longtemps à l'esprit qu'il faudrait appeler les secours.
Ouais. Alors, il y a aussi un autre personnage important dans l'écart de conduite, je trouve, moi. C'est le chien de Greg et Amy, Rusty. Comme Rusty de Ratatin, non, non.
Rusty, ça veut dire rouillé. En fait, c'est un labrador couleur renard.
D'accord. Pas comme le tien, voilà.
Voilà.
Hein, voilà. Donc, qui est enlevé par Nick et Kirsten après que ces derniers aient écrasé et embarqué le corps de Greg dans la voiture de Nick. Un chien qui s'adapte à toutes les situations et à tous les personnages, que ce soit Amy, Kirsten, sa fille Lily ou son mari Jamie. Pour lui, il n'y a, pour le chien, je parle, hein, il n'y a ni bien ni mal. Il est le seul à ne pas souffrir dans ce roman.
J'espère. Ah ben oui, non, mais c'est en fait, les lecteurs ne pardonnent pas si on fait quoi que ce soit de mal à un animal. On peut tuer tout.
Oui, mais il aurait pu être triste, le chien.
Il aurait pu, mais c'est un labrador. Les labradors, en fait, ils sont... Bon, c'est des chiens très, très fidèles, mais honnêtement, ils partiraient avec n'importe qui veut bien les promener. Hein. Donc, voilà. Donc, effectivement, j'ai souvent un chien dans mes livres. Je crois que The Guilty Mother, c'est une exception, en fait. Ça doit être le seul livre que j'ai écrit sans chien dedans. Mais ici, pour le coup, ce chien, il joue un rôle primordial. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus sans donner de spoilers. Voilà. Mais il a un rôle clé dans l'histoire. Et effectivement, ils embarquent le chien avec le corps de Greg dans la voiture. Voilà. Ils partent avec. Et c'est d'ailleurs... Ouais, non, je ne peux pas en dire plus.
J'ai
failli me trahir.
Alors, dans des cartes de justice, donc, il est question d'auto-justice et de vengeance à tiroir. Alors, pourquoi Amy n'aide pas la police et la justice? Elle n'a pas confiance en eux.
Je pense qu'elle perd très vite confiance en eux parce qu'elle a affaire à deux policiers, une femme qui est plutôt gentille, qui connaissait Greg. D'ailleurs, elle était à l'école avec lui, au lycée avec lui. Et un homme qui est assez brusque, très maladroit, en plus il sent pas très bon, elle n'a pas vraiment confiance en lui. Mais surtout, il y a plein de raisons qui font croire légitimement que Greg aurait pu partir de son plein gré. Et d'ailleurs, quand les hommes disparaissent au Royaume-Uni, à mon avis, c'est un peu partout pareil. Hein. Très souvent, en fait, ils partent de leur plein gré. Il y a plein d'hommes qui disparaissent parce qu'ils craquent, parce que bon, bah, voilà, ils menaient une double vie et à un moment donné, ça devient trop pour eux. Donc la police est plutôt partie sur cette hypothèse-là. Et Amy ne l'entend pas de cette oreille. Donc au départ, elle partage ce qu'elle trouve de son côté avec la police. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle ne va pas réussir à obtenir justice. Donc elle part plutôt sur une idée de vengeance. Et à partir de ce moment-là, elle cache tout à tout le monde.
Mmh. Alors pour écrire, tu fais forcément appel à la police et à la justice anglaise? Quelles sont tes sources d'informations?
Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, heureusement pour moi, j'ai une copine qui était flic, donc je vérifie tout avec elle. Et j'ai une autrice dans la même écurie que moi en Angleterre qui vérifie tous mes chapitres qui se passent devant le tribunal. Donc, en règle générale, j'essaie de pas en avoir trop pour pas faire trop d'erreurs. Mais dans l'écart de conduite, en fait, l'enquête est plutôt menée par Amy. En effet, au bout d'un moment, c'est elle qui mène sa propre enquête. Et dans The Guilty Mother, c'est un journaliste, un duo d'ailleurs de journalistes qui mène l'enquête. Et ça m'évite aussi d'avoir... déjà, je trouve que c'est un peu plus original comme ça, mais ça m'évite d'avoir trop de présence policière et du coup d'avoir trop d'erreurs. Voilà, mais en fait, dans les deux livres... Il y a des scènes qui se déroulent vers la fin devant le tribunal. Donc là, effectivement, j'ai les contacts qui vérifient pour moi ou qui répondent à mes questions quand je sais que j'ai un doute par rapport à comment est-ce que ça se serait passé, parce qu'il est très important de rendre ça le plus authentiquement possible. Et j'ai moi-même assisté à des procès pour meurtre, d'ailleurs, dans The Old Bailey, qui est donc le tribunal iconique à Londres. J'y suis allée tous les jours pendant une semaine voir un petit peu comment ça se passait. Mmh. Ça m'a impressionnée d'ailleurs. Et puis j'ai lu quand même pas mal de livres sur la loi britannique. Parce que quand j'ai commencé, je ne savais même pas vraiment est-ce que le juge rentrait avant les jurés, etc. Donc en fait, j'ai quand même bien fait mes recherches. Je pense que personne ne m'a dit que j'ai fait d'erreur pour l'instant. Donc c'est bien. Quelqu'un m'a dit, oui, par contre, pour les cartes de conduite, j'ai eu une lettre quand même d'une lectrice qui m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont pris le chien. » Elle était dégoûtée.
Il n'y a rien de judiciaire, là. Oui, heureusement. Alors, avec 8 romans en anglais, donc tu as 8, bah oui, parce que le dernier est sorti le 12 mars, hein, ça fait 8.
C'est ça, oui, hein, c'était mon 8e.
Voilà,
oui.
Donc tu as acquis une légitimité dans le monde du thriller psychologique, The Guilty Mother, a figuré sur la liste des best-sellers du journal USA Today, est resté plusieurs semaines dans le top 100 des livres numériques les plus vendus au Royaume-Uni. Certains n'hésitent pas à te présenter comme, je cite, la reine du thriller anglo-saxon, rien que ça. En France, tu as encore tout à prouver, même si les débuts sont remarquables et remarqués. Tu aurais pu te contenter d'écrire en anglais.
Oui, mais bon, je vis en France, donc c'était mais quelque chose que...
Voilà. Depuis 30 ans.
Oui, c'est ça. Ouais,
et tu écris depuis longtemps. Et
ouais.
alors, oui, t'aurais pu.
Oui, bah, j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans, hein, quand j'ai commencé à faire des nouvelles, etc. Donc,
ça fait des années que tu publies.
Ça fait quand même quelques années.
Et ça fait 2 ans que tu es publié en France et en français.
C'est ça, oui. Oui, mais en fait, c'était quelque chose que je voulais absolument, parce que c'est tout un monde pour moi que personne ne peut partager, tous mes amis ici, ma famille, etc. Et j'ai eu beaucoup de soutien d'ailleurs de la part de ma famille, ma belle famille, etc. Même quand je publiais qu'en anglais, ma belle-sœur et mon beau-frère et puis les neveux et nièces de mon mari, ils avaient tous fait l'effort de me lire en anglais. Mais c'est vrai que c'était pas donné à tout le monde de pouvoir lire mes livres en anglais. Donc j'y tenais absolument. Donc c'est un rêve qui se réalise, hein, que de voir mes deux livres sortis là en français.
Tu aurais pu le faire plus tôt?
Alors, ça c'est une longue histoire. En fait, j'avais un agent littéraire normalement dont c'est le boulot d'essayer de trouver des traductions de l'intérêt à l'étranger. Ouais. Ça n'a pas abouti, on va dire ça comme ça. Ouais. Et donc, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et c'est à partir de ce moment-là où ça, ça a débouché.
Alors, depuis l'apparition de The Guilty Mother, au-dessus de tout soupçon, embroché le 23 mai 2024 aux éditions Satkin, puis en poche aux éditions Point le 13 juin 2025, et Écart de conduite aux éditions Istia et compagnie le 15 mai 2025. Il s'est écoulé donc un peu moins de 2 ans.
Mm-hmm.
Hein, on peut dire que tes débuts d'autrice
mm-hmm.
En France sont réussis. Même Gérard Collard, influenceur, animateur radio et libraire, profession compatible visiblement, n'a pas tari d'éloges sur Écart de conduite. T'es surprise de cette reconnaissance rapide de ton travail d'autrice, même après 8 romans quand même?
Oui, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et puis, là, j'étais ravie aussi.
C'est rapide quand même. Au bout de deux romans seulement.
Ouais, après c'est mon troisième et mon sixième roman, c'est pas vraiment mon début non plus. Mmh. Non, j'étais agréablement surprise. Je m'attendais pas à grand chose. Je voulais juste le livre sorte en français. J'ai eu un peu de succès avec ces deux livres, donc. Que ça continue, j'espère, on croise les doigts.
Alors, depuis la sortie de tes deux romans en France, tu es allée à la rencontre de tes lectrices et de tes lecteurs. Lors des rencontres et des séances dédicaces, tu es désormais de l'autre côté de la table. Alors, es-tu forcément à l'aise?
Non, parce qu'en fait, je bloque toujours un petit peu quand il faut que je m'exprime en français. C'est psychologique et ça reste, mais c'est toujours le cas quand même. Donc non, pas forcément à l'aise. Par contre, j'adore rencontrer les gens. Donc j'adore rencontrer des lecteurs, des lectrices qui ont lu mon livre ou potentiel, qui seraient intéressés par mes livres. Et effectivement, j'ai commencé mon premier salon littéraire, c'était au mois d'octobre, novembre, l'an dernier. Donc, je suis allée à Pau pour faire un aller-retour dans le noir à Pau. Donc, ça, c'était le tout début. Depuis, j'ai fait Ormesson, le salon de Polar à Ormesson.
Sans oublier Chapolar, quand même.
Et Chapolar, oui, ça, c'est octobre également. Et cette année, le 2. Comment?
Le 2 novembre, c'était.
C'était 2 novembre, Chapolard, effectivement. Mm-hmm. Et puis l'année prochaine, je refais Chapolard, d'ailleurs, et un salon littéraire à Pusignan, donc dans le coin.
D'accord.
Et la semaine prochaine...
On va en parler.
Dis pas tout. On garde le suspense.
Alors, tu vas à la rencontre des lectrices et lecteurs en Angleterre, mais aussi en Irlande?
Tout à fait.
Que ce soit pour des séances dédicaces, mais aussi pour des salons. Ils sont aussi nombreux qu'en France, les salons du polar ou les salons littéraires en Angleterre, en Irlande. Comment ça se passe là-bas?
Ici, j'ai l'impression qu'il y en a tous les week-ends et parfois plusieurs. Non, je pense qu'il doit y en avoir un peu moins quand même. J'en fais pas beaucoup en Angleterre. J'en ai fait qu'un seul de salon littéraire, en fait. C'était à peu près en même temps que ça a démarré en France, donc avec Pau et Chapolard à Chaponnet.
Donc, 8 romans, un salon.
Oui. Bah, en fait, on ne propose pas de prendre en charge mes trajets, donc c'est à moi de les faire.
Ah, oui.
Et comme l'accent est beaucoup sur le livre électronique... Je ne suis pas forcément invitée pour vendre la version papier, quoi. Donc, voilà.
D'accord.
Mais j'y suis allée pour faire d'autres choses. J'ai fait des lancements, des tables rondes, ce genre de choses, mais pas dans le cadre d'un salon littéraire.
As-tu déjà rencontré en France des lectrices et des lecteurs qui ont lu tes romans en anglais?
Oui. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée au salon auquel j'ai participé est-ce que je les vendais aussi en anglais? Ils ne comprenaient pas forcément que j'étais là pour vendre le produit français, quoi.
Alors, tu as déjà fait tes premiers salons, tu le dis, un aller-retour dans le Noir à Pau, à Chapolard à Chaponnet, et dans le Rhône, et puis ensuite à Noir-sur-Ormesson.
Ouais.
Tu as pu rencontrer d'autres autrices, d'autres auteurs rodés à ce genre de manifestation.
Oui.
Tu étais bien acceptée dans cette petite famille, celle du polar?
Oui et non. Oui, globalement, si.
Il y a un nom
Oui, je pense qu'il y a, on essaie de promouvoir beaucoup le livre francophone, ce qui est juste. Et je suis pas vraiment francophone, du coup, je me sens un petit peu à l'écart.
Oui, mais c'est écrit en français. Du moment où c'est écrit en français.
Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais bon, non, c'est
ah ouais, voilà. T'as senti une petite.
Il y a un petit groupe là qui pousse beaucoup pour le livre francophone auquel clairement je n'appartiens pas, mais. Oui, mais sinon, j'ai été beaucoup épaulée, beaucoup aidée à Pau, l'aller-retour dans le noir à Pau. J'étais avec deux auteurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, Franck Tillier d'un côté et Gabriel Massa de l'autre. Et puis les deux ont été super gentils. Voilà, donc, j'étais très à l'aise. Ouais. J'ai rencontré plein de gens. Ça fait partie de ce qu'on aime faire au salon, évidemment, rencontrer les lecteurs, les lectrices, mais aussi les autres auteurs et les autres autrices. Ouais.
Ouais. Donc, pour ton troisième salon, hein, tu as reçu le prix Noir sur Ormesson le 15 novembre 2025, un prix remis par l'un des maîtres du thriller francophone, Cédric Cyr.
Oui.
J'imagine que tu devais être fière. Encore une reconnaissance très rapide. Alors, on vit comment ce prix-là?
Une fois de plus, je ne m'y attendais pas parce que j'avais lu un des autres livres. J'étais persuadée que celui-ci allait remporter le prix. Mm-hmm. On a su en fait...
On sait un peu avant quand même.
Un petit peu avant. Je crois que j'ai su dans la semaine précédant le salon que j'allais gagner le prix. Donc, j'ai pu préparer un discours et voilà. Mais non, c'était super. Enfin, je suis restée sur un nuage pendant un bon moment.
Ouais. Alors, même pas 2 ans après la sortie en France de The Guilty Mother, tu fais déjà partie des invités du prestigieux et du plus grand salon du livre policier en France, les Quais du Polar à Lyon. Il aura lieu cette année du 3 au 5 avril 2026. Et on te retrouve non pas à l'Hôtel de Ville, parce que l'Hôtel de Ville, c'est un petit peu moins prestigieux, mais au Palais de la Bourse avec les plus grands du genre.
Alors oui, donc ça c'est encore un rêve qui se réalise parce que depuis que j'habite à Lyon, j'assiste au Quai des Polars tous les ans, mais en tant que spectatrice.
Oui.
Donc l'année dernière, on avait postulé, j'ai pas été prise, mais j'avais qu'un livre de sortie à l'époque. Là, cette année, ma candidature a été acceptée, donc j'y vais. Et effectivement, c'est un rêve qui se réalise parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis que je connaissais ce salon, il y a plusieurs années maintenant. Et donc, oui, je vais être au Palais de la Bourse pour faire les dédicaces. Donc, je suis sur le stand d'une librairie qui s'appelle Les Volcans, qui est basée à Grenoble. Mais j'ai également une table ronde que je fais avec deux autres auteurs, une française autrice, une française et une canadienne. Et ça, c'est le dimanche à 14h. Et ça, c'est à l'Hôtel de Ville. Voilà.
On va en parler. Donc j'imagine que tu as déjà fréquenté les Quais du Polar en tant que lectrice. Tu te voyais un jour, non pas en tant que lectrice, mais en tant qu'autrice.
Oui, je change de... Ouais. C'était... C'était un rêve, en fait, un objectif quelque part aussi. Mais quand je commençais à en rêver, j'avais toujours pas de livre de sortie en français. Donc c'était pas pour tout de suite au départ.
Donc j'imagine que... je continue. Dans la liste des autrices et auteurs présents à Quai du Polar, tu fais partie de la sélection anglaise.
Oui.
Hein, avec d'autres auteurs comme R.J. Laurie, Jonathan Coe ou Peter James, pour les plus connus, entre guillemets. Comme en football ou en rugby, l'Angleterre et l'Écosse sont des pays comme la Serbie. C'est des pays au Quai du Polar, comme la Serbie, l'Ukraine, le Nigeria ou l'Espagne. Le Royaume-Uni n'est décidément pas un pays comme les autres.
Je sais, c'est une question, ça,
oui,
je sais pas.
Oui, c'est une question, oui. Oui, pourquoi il n'y a pas un seul pays, Royaume-Uni?
Ah, je sais pas.
Il y a quand même l'Écosse et l'Angleterre.
Alors, oui, la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, l'Écosse le Pays de Galles.
C'est comme au foot ou au rugby, ils ont chacun une équipe, alors qu'en fait, c'est le même pays.
Oui, je sais pas.
Ouais. Bon, ça t'a pas...
En fait, je dis toujours que je suis britannique parce que je suis à moitié anglaise et à moitié nord-irlandaise. Donc, l'Irlande du Nord ne fait pas partie de la Grande-Bretagne, en fait. L'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Mais on a la nationalité,
nationalité
irlandaise ou britannique quand elle est nord-irlandaise.
Parce que pour toi, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, c'est pas la même chose?
Non.
Ah, ça englobe l'Irlande complètement?
Non, en fait, la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Pour le Royaume-Uni, on rajoute l'Irlande du Nord et pour les îles britanniques, on rajoute l'Irlande, la République également.
effectivement, le Royaume-Uni n'est pas un pays comme les autres.
C'est compliqué.
Je confirme.
Hein.
Ben oui, hein, ça confirme.
Petit cours d'histoire à géo.
Alors, quelles autrices, quels auteurs es-tu impatiente de côtoyer et de rencontrer à Quai du Polar? C'est maintenant que tu vas pouvoir les côtoyer. Ben, je crois que tu auras le temps.
Anouk Schoenberg, ouais. Parce que son dernier livre, c'est une merveille. J'oublie combien de secondes, je crois que c'est 41.
14 secondes.
C'est ça. Bon, 14 ben, voilà. Secondes. Mais puis, ben, je me fais quelques potes hein, depuis le temps, donc j'ai hâte de les retrouver. D'ailleurs, je vois que tu as une séance de dédicace avec Jean-Christophe Tixier, que bon. Je connais. Voilà.
On va en parler. Alors, toi qui as une culture anglophone à la base, lire le roman d'un auteur ou d'une autrice francophone est compliqué ou pas?
Je suis un peu plus lente quand je lis en français quand même. C'est un peu moins naturel pour moi, tout comme ça le serait si j'écrivais en français, mm-hmm. J'imagine. Je préfère lire en anglais, je l'avoue. Mais bon, maintenant que...
Il y en a qui sont traduits?
Ah oui, oui, mais non, ça, pour le coup, par contre, jamais je lirai une traduction d'un livre français en anglais. Ça, c'est comme les films en VO. Il faut que ce soit dans sa langue d'origine, quand même. Mais donc, voilà. Donc, je lisais beaucoup en anglais. Je lisais exclusivement, en fait, en anglais. Maintenant, j'ai fait un effort pour lire plus en français. Puis, de toute façon, ça me donne envie, quand je vais au salon, même en tant qu'autrice, d'acheter les livres de mes confrères et de les lire aussi. Quoi.
Voilà. Alors, le 12 mars 2026 est sorti en anglais « A Mother Always Know ». Une mère, c'est toujours un français. Un thriller policier au suspense psychologique addictif et parfait pour les fans de Freda McFadden. Même si comparaison n'est pas raison, la barre est placée quand même très haut. La femme de ménage n'a qu'à bien se tenir.
Ouais, elle a bien cartonné avec La femme de ménage, c'est vrai. J'ai même emmené mes élèves voir le film.
Alors, encore une histoire de mère et d'enfant. Décidément, c'est un sujet inépuisable pour toi.
Oui, donc cette histoire, je pense qu'elle est... Alors là, elle est assez originale, je pense, parce que j'ai essayé de traiter le revenge porn, en fait. Donc la publication d'images, des photos nues, etc., sans la permission sur Internet. Donc ça traite ce sujet-là, en fait, et donc il y a... Un jeune homme qui est retrouvé mort tout de suite au premier chapitre et la mère qui soupçonne que ça pourrait être sa fille puisqu'elle a subi ce fait divers hein, finalement à ses mains, à lui. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Le but est-il forcément de traduire et d'éditer tous tes romans anglais en France?
Non, non, juste les meilleurs.
Il n'y a que deux
pour le moment, mais il y a un troisième qui sort à la fin
Pourquoi
de l'année.
T'as pas envie que tout se sorte en français?
Ben, je pense qu'en fait, il y a un timing pour la sortie des livres un peu partout pareil. En Angleterre, en fait, on essaye de sortir un livre par an. C'est pas mal, en fait. Et puis, je pense qu'en France, c'est un peu la même chose. On passe pas mal de temps aussi, là, en France, à promouvoir chaque livre. Alors, donc, si je sors 8 d'un coup, ça va faire beaucoup. Non, donc, voilà. Donc, un par an, et je les écris à ce rythme-là. Donc, voilà.
À un moment, tu pourrais faire une pause, comme ça permettrait de sortir les
Exactement. Hein, ouais, voilà. Mais bon, il faut que je continue à ce rythme-là en anglais aussi, quoi.
Donc, tu te sens obligée?
C'est mieux. Parce que je pense que c'est un marché qui...
Oui, mais c'est mieux pour... à quel niveau?
C'est un marché qui...
Pour toi, c'est mieux?
Oui. C'est un marché qui est tellement saturé qu'on peut vite se faire noyer dedans et vite se faire oublier. Et donc, je pense que si je prenais une pause et que pendant 2 ans, je ne sortais pas de livre, je perdrais une partie de mes lecteurs, mes lectrices fidèles.
Ah bon
quoi. Ouais.
2 ans, ça va?
Ouais, non.
Non ouais, après, c'est tous les ans, il y a un moment... Enfin, c'est contraignant tous les ans.
C'est sûr, c'est ce que je vise quoi. Pour l'instant.
Ouais.
Bon. Je prendrai une pause si je fais un burn-out.
Alors, tu es en France depuis 1995 et tes 8 romans sont tous sortis en anglais, y compris le dernier, Mother Always
Knows. Ouais.
Knows. Une mère, c'est toujours paru le 12 mars 2026. Écrire directement en français ou traduire toi-même tes romans, donc on n'en parle pas. Voilà.
J'ai répondu
tout à
l'heure à la
question.
Répondu.
Ouais. Ok, d'accord. Alors, Au-dessus de tout soupçon est paru en audio-livre le 6 mars 2026.
Oui.
Hein, et Écart de conduite en fera de même le 6 avril 2026.
Oui.
Hein. C'était déjà le cas de tes romans lus en anglais.
Oui, ça sort en général, ça sort dans les trois formats en même temps en anglais, ouais.
Alors, quel regard portes-tu, toi, sur cet autre support de lecture et celles et ceux qui ont lu et enregistré tes romans ?
Eh ben, je pense que c'est bien de multiplier les formats. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps forcément de lire ce qui est imprimé ou sur leur écran de Kindle, Kobo, etc., qui peuvent écouter parce qu'ils font des longs trajets pour aller au boulot. Idem aussi, on parlait de malvoyants tout à l'heure, ça ouvre la possibilité de lire n'importe quel livre pour eux, hein, en écoutant en version audio. Donc je trouve que c'est une bonne chose, ouais.
Tu as fait paraître 8 romans en anglais et seulement 2 en français de 2019 et 2023 ont été traduits en français. Quel sera le prochain, est-ce que tu as le droit de dire lequel sera le prochain à apparaître en France?
Oui, donc le titre, oui, c'est en cours de traduction. Là. Donc le titre en anglais, c'est The Crime Writer, ce qui veut dire littéralement l'auteur du crime. Mmh. On n'a pas fixé un titre en français pour l'instant. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui écrit des polars, dont la femme est disparaît en fait dans des circonstances qui ressemblent fortement à l'intrigue d'un de ses livres. Donc très vite, il devient le suspect.
D'accord. Le suspect. Et il sortira
Octobre, je crois le 4 octobre 2026, cette année du coup, à la fin de l'année.
Est-ce que tu es forcément à la recherche d'une nouvelle maison d'édition?
Non.
Non.
Pourquoi je serais à la recherche d'une nouvelle maison d'édition?
Tu aurais pu être sollicité par des plus importantes
Oh non.
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 Bien. Allez, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Et oui, il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les séances. Et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Diane, quel est ton dernier coup de cœur littéraire?
Oh, ah, tu ne m'as pas dit que tu allais me poser celle-là.
Ça, c'est uniquement ceux qui écoutent mes émissions le savent.
C'est vrai aussi. Ouais.
Ah, voilà, c'est un piège.
Non. J'aurais pu anticiper, en effet. J'ai beaucoup aimé Le silence de Dennis Lahn. Ça, il faut que je le dise, je trouve que son personnage principal féminin est très très fort. Qu'est-ce que j'ai lu récemment aussi? Toutes ces fautes d'André Amara, qui est dans mon genre, celui-là, c'est un thriller psychologique que j'ai beaucoup aimé, qui a été télévisé d'ailleurs. Je viens de lire un livre, mais en anglais. En anglais, ça s'appelle In Memoriam. Et c'est par Alice Wynne. J'imagine que c'est traduit parce que ça a été un best-seller au Royaume-Uni, aux États-Unis, entre autres. Et c'est l'histoire de deux hommes qui tombent amoureux et très jeunes. Ils vont faire la guerre, la Première Guerre mondiale. L'un d'eux a 18 ans, l'autre a 17 ans. Et c'est, à mon avis, extrêmement réaliste et très bien. L'autrice a dû faire énormément de recherches pour l'écrire. Donc, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire de guerre et de pertes et de plein de choses. En fait, c'était juste très émouvant et incroyable. Voilà.
Bien. Alors, côté proposition de la quinzaine, et Quai du polar oblige. Alors, notons le polar de Fred Vargas, mais c'est un vieux sur la dalle aux éditions Flammarion. Le thriller d'Henri Lovenbruck, Les disparus de Blackmore aux éditions XO. Quand tu connais, tu me dis. Hein.
Oui, ok.
Le polar de Victor Gilbert, Brouillard aux éditions Hugo Thriller. Le thriller de Michel Lecoq, Pire que tout aux éditions Alter. Le polar d'Eva Björk, Aegirs Dottir. Les garçons qui brûlent aux éditions Point. Le thriller de Nicolas Druard, L'instinct aux éditions Harper Collins Noir. Le polar de John Lear Horst et Thomas Enger, Que le meilleur gagne aux éditions Gallimard. Le thriller de Jérôme Loubry, Le garçon éternel aux éditions Calmann Lévy. Le polar de Dolores Rotondo, En attendant le déluge aux éditions Gallimard. Le roman de Jean-Christophe Beaucoup, Une main vers le ciel aux éditions La Manufacture de Livres. Les polars d'Arthur Thiominen, La revanche et tous les silences aux éditions Point. Le thriller de Sonia Delzongle, ça te parle? Lyonnaise. thriller, très bien, je te recommande. La gardienne aux éditions Fleuve Noir, elle a écrit de nombreux livres. Le polar de Benjamin Dierstein, La Cour des Mirages aux éditions Point. Le thriller de Johanna Gustafsson.
Oui.
Ouais. Et Thomas Inger, aux éditions Kalman-Lévy, très bon bouquin. Le polar de Simon François, La plupart des hommes aux éditions du Masque. Le thriller de Petroni Rossagna.
Oui, j'ai oublié le titre, mais en effet.
La mort en miroir aux éditions Belladone, qui vient de sortir. Le polar de Don Winslow. Le casse ultime aux éditions Harper Collins Noir, dont Jean Hesch a traduit des livres aussi, je crois.
Mm-hmm.
Le thriller de Céline Dangean, non, une des maîtres du thriller, déferlante aux éditions Michel Lafon. Le polar historique d'Olivier Bard Capuçon, Le procès du rhinocéros blanc aux éditions Actes Sud et dans la collection Actes Noirs. Le polar de Mathilde Bosseau, La colline aux éditions du Seuil. Le roman de Jean-Christophe Tixier.
Une employée modèle.
Voilà, aux éditions Albin Michel. Et le polar de Clarence Spitz.
Je ne sais pas.
Parle. D'où personne ne revient aux éditions Belfort Noir. Mais tu commences dans le monde du salon, tu verras dans 3-4 ans, tu les connaîtras tous.
Oui, mais il y en a beaucoup dans ce que tu dis que je connais, mais j'aurais été incapable de trouver le titre comme ça.
Eh bien, Roman Gard, figure-toi que c'est terminé pour aujourd'hui. Diane Jeffrey, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci
de
beaucoup de m'avoir invité.
Et de Roman Gard. Rappelons que ton dernier roman, Écart de conduite, paru en France le 15 mai 2025 aux éditions Issia et compagnie, sans oublier Au-dessus de tout soupçon.
Tout à fait, ouais.
Le premier à paraître en France en 2024 est paru en poche aux éditions Point le 13 juin 2025 sous le titre de The Guilty Mother. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies, sans oublier les livres audio et les livres en format liseuse. Tu as des librairies
Je suis très attachée à la Maison Jaune, hein, à Neuville-sur-Saône, qui m'a beaucoup soutenue. Voilà. Au Mot Bleu, également à Fontaine-sur-Saône.
Voilà, c'est là où tu as fait tes premières séances dédicaces,
non? Voilà.
Ouais, c'est ouais. Ça. On peut suivre ton actualité sur Internet via ton site. C'est un site, hein,
voilà, j'ai un site.
DianeJeffrey.com, bon, en anglais.
Qui n'est pas à jour, il faut que je le mette à jour, mais ce sera fait.
À peu près.
Instagram, le plus souvent, je suis sur Instagram. C'est vrai que j'ai des comptes, j'ai un compte Facebook auteur aussi, mais surtout Instagram, j'ai un peu abandonné X.
Et sans oublier la maison d'édition, les éditions Istia et compagnie, www.istia.com.
CIE.fr. C'est ça, hein, qu'on peut retrouver également sur Instagram.
Voilà.
Ainsi que les éditions Point.
Diane, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci
d'autrice.
Beaucoup.
Bonne écriture.
Merci.
Bonne séance de dédicace, bon salon. Puis à bientôt sur Radio B pour le prochain bouquin.
À bientôt,
bouquin.
Ouais. À bientôt. Avec plaisir.
Bonne
Au
soirée.
Revoir.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose.